le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu veux entrer dans la légende?
T'as le goût de devenir le ou la leader de Chiz et d'Impact Campus?
De nous accompagner dans nos projets les plus fous?
De souffler avec nous les bougies du 25e anniversaire de la station?
Deviens directeur ou directrice générale de la Corporation des médias étudiants de l'Université Laval.
Avant le 20 août, visite le www.chiz.ca. Envoie-nous ton CV.
Et toi aussi, deviens légendaire.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
On a eu une grosse semaine pareille, hein? Ben, installe-toi bien confortablement parce que je vais te faire un petit résumé de tout ce que t'as manqué de l'actualité en une heure de radio. Voici tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette édition du 7 août 2021 de Avant de sortir. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro et j'ai l'honneur, la chance et l'incroyable plaisir d'être en compagnie d'un collaborateur avec lequel j'ai déjà animé des émissions d'actualité l'hiver dernier, Thomas Desrosiers. Bonjour Thomas, comment tu vas?
Bonjour, ça va très bien Guillaume, merci de me recevoir en ce beau samedi et fin d'après-midi.
Eh bien, ça me fait grand plaisir, ça me fait grand plaisir et écoute Thomas, je suis super content que tu sois là avec moi parce que j'essaie d'étudier en Sciences Po, tu travailles à l'Assemblée nationale et on a plusieurs nouvelles politiques qui s'en viennent. Ça sent les élections fédérales à plein nez. Il y a des élections municipales qui s'en viennent. On doit parler également de la crise du coronavirus, une potentielle quatrième vague qui pointe son nez à l'horizon. Et également, on a quelques nouvelles internationales. En tout, on a quand même plusieurs bons gros sujets qu'on va essayer de décortiquer ensemble, essayer de trouver toutes les raisons derrière le tout et de vous expliquer ça, cher public, de la manière la plus compréhensible possible. On va se donner une bonne heure de radio ensemble pour faire ça, mais avant toute chose, on va y aller en chansons et en musique. On va écouter un artiste de la ville de Québec, un band qui est apparu sur la scène musicale cette année. On va écouter la chanson Street Bang de Festoot. On vous revient tout de suite après.
Derrière les fourneaux, you're so great. Déjeuner deux fois, trois fois pour me briller. Énorme. on se casse le cou.
Moi, j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi, j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi, j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi, j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi, j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi, j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi, j'aime tout le monde.
Vous écoutez toujours Avant de sortir avec Guillaume Bédard sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et rebienvenue à tous et à toutes. Écoutez, on va plonger directement dans le vif du sujet. Il y a des grandes rumeurs d'élections fédérales qui approchent à l'horizon. Thomas, peux-tu nous faire un petit topo général de la situation? Comment ça s'enligne pour l'instant?
Et c'est sûr que c'est assez des grandes rumeurs pour que les gens parlent de certaines dates, par exemple, qui soient déclenchées à la mi-août. À ce moment-ci, c'est le Parti libéral qui est en tête de la plupart des sondages. Au Québec, c'est un peu plus serré avec un Bloc québécois qui pourrait faire au-dessus d'une trentaine de sièges, encore une fois. Et ça, on le remarque par le fait que tous les chefs sont en tournée en ce moment. Et François Blanchet, justement, était... aux îles de la Madeleine aujourd'hui. On se parlait hors d'onde, Guillaume, d'une sortie du Parti conservateur à Saint-Hyacinthe qui, ma foi, aurait pu faire plus parler parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont manqué à leur tâche en faisant pas de vérification parce que, Guillaume, tu me disais, ils ont proposé un institut de recherche sur l'agriculture à même Saint-Hyacinthe où il y en a déjà un.
Oui, effectivement. Écoutez, on va revenir sur ça un petit peu plus en... on va y aller tout de suite. Effectivement, c'est assez gros. C'est arrivé hier, faut qu'on en parle. Le Parti conservateur qui, d'une main, dit « on ne veut pas d'élection. Nous autres, on n'est pas pour ça. » Et on peut les comprendre de ne pas être pour ça. Présentement, ils ont à peu près 5 % de chances de l'emporter si si les élections étaient demain matin. Donc, 5 % de chances de l'emporter, ils l'emporteraient minoritaire. Ils n'ont pas grand-chose à gagner à ce que les élections soient déclenchées là, maintenant. Mais de l'autre côté, ils se tiennent prêts et disent avoir déjà plus de 90 % des candidats et des candidates de sélectionner ou en processus de sélection. Donc, ils sont sur le pied de guerre, pour ainsi dire. Et en même temps, le chef Erin O'Toole est en train de faire une tournée. Il est au Québec en ce moment. Il était à Chicoutimi-le-Fjord, qui, on sait, est une des seules bases conservatrices semi-fiables pour les conservateurs au Québec. Même à ça, c'est une circonscription qu'on sait qu'elle est dans la mire du Bloc québécois. Donc... il est allé à Chicoutimi, il est passé à Saint-Hyacinthe, il s'en va à Orford en fin de semaine. Et à Saint-Hyacinthe, il a fait une très grande annonce. Il voulait courtiser les agriculteurs. On sait que les agriculteurs, particulièrement dans l'Ouest, sont beaucoup plus nombreux à aller voter pour le Parti conservateur que d'autres corps de métier. Et il a donc proposé une grande mesure pour améliorer l'autosuffisance alimentaire du Québec. Donc, il dit, avec la pandémie, avec les refermetures de frontières, on le voit, on a besoin de s'assurer que ce qu'on produit ici, avec notre grand et vaste territoire, soit capable de nous nourrir ici et qu'on soit complètement indépendant du système international. Jusque-là, Thomas, on s'entend.
On le suit.
On le suit. Jusque-là, ça va bien. C'est un argumentaire qui se tient. C'est un argumentaire qui fait plaisir à entendre. Qu'on soit agriculteur, qu'on soit simplement inquiet de la fermeture des frontières, c'est un argumentaire qui se tient. Cependant, la mesure qu'il propose, c'est un centre de recherche en agriculture. Le problème, c'est qu'il y en a déjà un. L'Institut de technologie agricole qui est lié indirectement à l'Université Laval, qui est de niveau universitaire, qui est un des deux instituts de technologie agroalimentaire. Il y en a un à Saint-Hyacinthe, il y en a un à La Pocatière. Ce sont deux énormes instituts de recherche qui sont à la fine pointe de la technologie présentement. Donc, en créer un nouveau à Saint-Hyacinthe, L'intérêt, on peut comprendre la proposition d'un point de vue politique, mais d'un point de vue pratico-pratique, ce que toi, tu retires comme leçon de ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job, il y a un recherchiste qui n'a pas fait sa job.
Il y a quelqu'un qui a oublié de faire la vérification de plus, et là, ils sont chanceux que ce soit pendant les vacances, d'après la majorité des Québécois, ça n'a pas beaucoup sorti, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais ils se mettent les pieds dans les plats déjà et on n'a pas commencé la course. Mais c'est pas les seuls, le Parti conservateur ou qu'au Québec, ça va pas très bien. Le NPD, pour moi, Guillaume, je regarde les chiffres assez régulièrement, toi aussi. Je sais même pas comment ils vont gagner le seul siège qu'ils ont en ce moment sur l'île de Montréal, le siège d'Alexandre Boulris. Ça va être très difficile. Le NPD n'a pas le goût d'aller en campagne en regardant ces chiffres-là. Je les comprends. Et le Parti conservateur... En ce moment, j'ai l'impression que le Bloc, pour citer Yves-François Blanchet, n'en veut pas, mais est prêt à prendre la balle au bon. Et Parti libéral sont prêts. Les deux autres gros partis au Québec ne seront pas capables de suivre si on déclenche maintenant les élections.
Effectivement, je regarde, j'ai les chiffres devant moi. Le nouveau Parti démocratique, le NPD de Jagmeet Singh, présentement a 80 % de chances de remporter un seul siège au Québec. C'est pas énorme. On va se le dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas énorme. Alors qu'il y a de cela deux élections. Donc, à l'élection de 2011, ils avaient remporté la très vaste majorité des sièges au Québec. Donc, toute leur base s'est complètement effondrée. Le message ne passe plus. Et cette semaine, Jagmeet Singh s'est également mis les pieds dans les plats de manière assez spectaculaire. Écoute, Thomas, c'est une histoire un petit peu plus compliquée. C'est du droit constitutionnel, mais on va essayer de faire ça simple quand même. Donc, pour déclencher une élection au Canada et au Québec, théoriquement, ce n'est pas le premier ministre qui déclenche l'élection lui-même. Il doit demander la permission à la reine, mais la reine ne se pointant pas tout le temps.
Elle n'est pas souvent là, je pense.
Elle n'est pas souvent là, la reine. Elle a des représentants qui sont le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur dans chacune des provinces. Bon, gouverneur général, on n'en avait plus depuis la démission un peu forcée de Julie Payette plus tôt cette année. Maintenant, c'est une nouvelle gouverneure générale, d'ailleurs d'origine inuite. On salue le geste, mais est-ce que ça remplace toutes les atrocités que la reine et le gouvernement du Canada ont fait envers les peuples autochtones? On n'est pas sûr.
L'histoire va en juger.
L'histoire va en juger. Mais bref, il y a maintenant une gouverneure générale en poste à Ottawa pour pouvoir accueillir la demande du premier ministre pour une élection. Parce que sans gouverneur général, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Il aurait fallu demander au juge en chef de la Cour suprême et ça aurait commencé à donner lieu à plusieurs potentiels conflits d'intérêts entre ces deux rôles particulièrement importants dans la Constitution canadienne que sont le juge en chef et le ou la gouverneur général. Maintenant, cela étant dit, il ne s'est jamais passé depuis 1945 un moment où le ou la gouverneur général a refusé une demande du premier ministre, quelle qu'elle soit. Donc, que ce soit de arrêter le Parlement pour l'été, que ce soit de déclencher des élections, chaque fois que le premier ministre fait une demande, la gouverneure générale ou le gouverneur général fait juste accepter et c'est comme ça que ça se passe. Et dans le fond, on s'entend, c'est bien parce que le premier ministre ou la première ministre, dans le cas de Kim Campbell, qui a duré moins d'un an, fait qu'on va y aller avec le premier ministre, est élu, si on veut suivre nos intérêts démocratiques, on se dit que ça doit être cette personne-là qui doit avoir ce pouvoir-là et non pas une personne qui est nommée qui représente la reine. On est assez d'accord là-dessus, toi et moi. Maintenant, Jagmeet Singh, chef du nouveau Parti démocratique du Canada, du NPD, a dit qu'il ne voulait pas d'élection. On peut le comprendre à regarder les chiffres et on peut également le comprendre avec une potentielle quatrième vague de pandémie qui pointe son nez. Il se dit « c'est pas une bonne idée, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas le moment ». Et donc, la solution pour empêcher complètement une élection, c'est que la gouverneure générale dise non. ce qui, tu vas être d'accord avec moi, est un petit peu spécial.
C'est un petit peu spécial et la professeure collège militaire à Kingston, Stéphanie Chouinard, très connue en politique canadienne, lui a répondu sur Twitter que même à ça, il y a une autre option pour le premier ministre, c'est donner la démission totale du gouvernement. Et là, elle est simplement obligée de l'accepter. Là, on lui demande même pas de faire une action. C'est-à-dire, ils peuvent aller en élection s'ils le veulent. Et que ça, c'est une mauvaise connaissance du système pour un élu du Parlement canadien. C'est-à-dire, Jack Mead va devoir retourner à ses livres et préparer une élection parce que je crois pas que son argument va fonctionner.
Je pense pas que son argument va fonctionner. Et je pense que les seules personnes qui ont entendu cet argument vont être un petit peu fâché parce que ce que Jagmeet Singh propose, c'est essentiellement de dire que non, le Canada n'est plus indépendant, n'est plus une démocratie et que la couronne peut décider. On s'entend qu'avec les valeurs très, très démocrates du nouveau parti démocratique, ça clash un petit peu. On va s'entendre là-dessus. Ça clash un petit peu. C'est assez surprenant d'entendre ça de ce côté-là. On va continuer à faire le tour des demandes un petit peu farfelues qui ont été faites, puisqu'il y a eu une rencontre entre le premier ministre du Québec, le chef de la CAQ, François Legault, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, un peu plus tôt cette semaine. Ils se sont rencontrés et François Legault a fait une demande qui est très importante pour lui et qui, qu'on le veuille ou non, risque d'être au cœur de la campagne électorale fédérale, particulièrement ici dans la région de Québec, et c'est à propos du fameux troisième lien. Thomas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. On sait que le troisième lien, il a été présenté il y a quelques mois. C'est un projet de plusieurs milliards de dollars. Dans l'article du Soleil, on parle d'une facture de 10 milliards. Donc, François Legault a parlé à Justin Trudeau en lui demandant directement de donner un financement à 40 % du projet de la part d'Ottawa. 40 % je peux pas faire mathématiques, c'était près 4 milliards.
C'est à peu près 4 milliards. Donc, on demande à Justin Trudeau de payer à nouveau le pont Champlain. Exactement. Au complet, neuf, plus 1 milliard de sa poche. Oh. Et ça, c'est juste 40 % des coûts. On n'est même pas à moitié des coûts.
Et là, le ministre Jean-Yves Duclos, qui est un élu de la région de Québec, qui est président du Conseil du Trésor, il est, disons, le grand argentier du gouvernement. Il n'a pas parlé depuis ce temps-là à ce sujet, même s'il y a eu plusieurs questions de la part des journalistes. Et je le comprends parce que, comme tu dis, ça va être un enjeu clair dans la région de Québec. Et là, il va falloir décider de quel bord on penche du côté du Parti libéral du Canada.
Effectivement, parce que on sait que présentement, dans la grande région de Québec, il y a uniquement deux sièges qui sont détenus par les libéraux. Il y a également deux sièges qui sont détenus par le Bloc québécois et trois sièges, si je ne me trompe pas, qui sont détenus par le Parti conservateur. Donc, à Québec, c'est un total de 7 sièges. Là-dessus, 2 libéraux, 2 bloquistes, 3 conservateurs. Donc, les libéraux ont de la marge de manœuvre pour potentiellement gagner 1 ou 2 sièges. Pour ce qui est des bloquistes, ils ont également de la marge de manœuvre pour gagner 1 ou 2 sièges supplémentaires. Les conservateurs veulent garder leurs 3 sièges et en avoir peut-être même 1 ou 2 de plus. Donc, ça va être un gros terrain de bataille quand même, la ville de Québec. Et on sait que le projet est d'une popularité très variable. Oui. Alors que le projet de troisième lien était aux alentours de 75 % de popularité dans la ville de Québec et en fait dans la grande région de Québec, il y a de ça un an seulement. Les derniers sondages mettent l'approbation à ce projet-là en bas de la majorité, donc 46 % pour et 42 % contre. C'est à peu près kiff-kiff. Donc le Parti libéral va devoir commencer à prendre des grosses décisions. Pour l'instant, leur position, ça avait été vraiment de dire « ce n'est pas notre problème, c'est un projet provincial, on ne se positionne pas, on n'est pas pour, on n'est pas contre, bien au contraire ». Le Bloc québécois avait essentiellement la même stratégie aux dernières élections. On s'en souvient, ça avait fait tout un tabac quand la candidate, justement, dans la circonscription de Québec, la circonscription de Jean-Yves Duclos, qui avait dit au micro de Radio-Canada qu'elle, personnellement, elle était contre ce projet-là. Ça avait beaucoup fait réagir dans les rangs bloquistes qui avaient dit « Non, c'est pas notre projet. Nous autres, on est au fédéral, faut pas qu'on s'en mêle. » Donc, qui est-ce qui va prendre position en premier? On sait que le Parti conservateur a pris position en faveur du projet. C'est déjà fait. Ils disent « Nous autres, on pense que c'est un projet que les gens veulent, donc on est pour. » Est-ce que c'est un bon projet? Par contre, surtout la dernière mouture qui a été présentée, 10 milliards, c'est une facture salée. 4 milliards demandés directement au gouvernement fédéral, ça commence à faire beaucoup d'argent. Le Bloc québécois et le Parti libéral, je pense, n'auront pas le choix de se positionner. Et je pense vraiment que ça va faire pencher la balance. Parce que si on regarde la circonscription de Québec, qui est chaudement disputée entre le Parti libéral, qui est présente un ministre et pas seulement un petit ministre, un des plus gros ministres, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, et le Bloc québécois a un potentiel candidat très fort, Louis Sans-Façon, qui, on sait, il est passé à Tout le monde en parle, pour demander des heures de maladie payées supplémentaires. On a vu le drame que ça a fait dans sa famille, que ça a fait dans plusieurs familles au Québec. C'est un candidat qui s'exprime bien, qui a un projet clair, qui représente l'intérêt d'une certaine partie de la population. Donc, on voit vraiment ces deux candidatures, c'est des grosses pointures qui vont s'affronter.
Des grosses pointures dans une circonscription qui a été gagnée par moins de 1000 voix aux dernières élections.
308, pour être très exact. 308 voix que les libéraux ont gagnées sur le Bloc québécois. Donc, c'est très serré. Et dans la circonscription de Québec même, l'opposition au troisième lien, elle est très forte. Par contre, dans les banlieues autour, c'est plus le cas du « oui » face à ce projet-là qui est plus fort. Et donc, est-ce qu'on va vouloir garder certaines circonscriptions en banlieue pour sacrifier le centre-ville? Qu'est-ce qu'on va faire?
Est-ce qu'on veut sauver le soldat du clos ou aller essayer de jouer dans d'autres plates-bandes puis aller un petit peu plus loin dans la région de Québec? C'est la question du Parti libéral, à mon avis, clairement.
Effectivement. Et en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire parce que le Parti libéral du Canada est celui qui est le moins verbal, étonnamment, à propos d'une élection. Écoute, ils esquivent toutes les questions à propos d'élections. Cependant, j'ai eu des sources. J'ai eu une conversation récemment avec un de mes amis qui s'était fait approcher pour devenir candidat en se faisant dire « les élections arrivent bientôt ». Donc, les rumeurs sont pas juste fondées sur de l'air. Vraiment, le parti au pouvoir est présentement en train de se préparer. Donc, on va continuer de suivre ça avec une très, très grande attention. En attendant, on va aller écouter... on va prendre une petite pause.
On le mérite.
On le mérite. On va aller prendre une petite pause en chansons et en musique. On va aller écouter la chanson « Mange-moi le pad » de Québec Redneck Bluegrass Project. Vous écoutez toujours, avant de sortir, votre magazine d'actualité avec Guillaume Bédard et Thomas Desrosiers aux ondes de Chiz 94.3.
Faire des tonnes je pense pas, c'est mon mandat. Je suis là pour dire calice, envoyez donc par là. Je me donne la carte blanche, je tombe pas mes gants blancs. Je trouve ça noir, quel poil, la fille a pas de bon sens. Des tonnes d'âme, je laisse au blues. Tout le monde a poil pour la partout. Ah ouais, à soir, on vire fou que tombent les tabous. Mais je frappe des nœuds pis des cordes sensibles. Faut pas être peureux, ah, c'est pas long, ça cible. On peut plus jeter son dévolu, ça a l'air, c'est pas poli. J'ai le motus cousu, mais je m'essaye une sortie. J'ai les mains liées, je me les délie. Je te le crache, je te le crie, je te le dégueulis. Aussi cru qu'une salade, mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Savoir comme un judo passé par quatre chemins. Ah, pis si ça passe pas, ben ça me chira des mains. Assez de contraintes demain, mais écoute, tu porteras plein. Faut pas garder ça dedans, les coucher les enfants. Et si je succombe à la censure, que je prostitue ma prose et mon écriture, fait que le diable me déshérite. Qu'il me reprenne ce qu'il m'a donné à guide et qu'à la guérite, sa chienne tête et cerbère me réserve un sort arbitraire. Celui de brûler à perpète aux oubliettes de l'enfer. L'enfer. Si on peut plus rien dire, si on peut plus dire
rire de marde, personne peut m'empêcher d'en chier. J'ôterai mon poing serré pour lâcher un gaz. T'as plus ma langue un asti de fois avant de parler, mon moins des millions, milliers de fois avant de tuer le dégle, 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 ben je tire le tige, yule, ça m'a le tire le tire le yule, le tire le tire le yule, le tire le tire le tire le yule, 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 le tire le tire le yule, dam, tire le tire la fille, le tire le tire le tire le dam, tire le tire le tire le dam, je tire le tige. J'ai une petite boule, pendant que j'ai comme muselle. J'suis comme une boule qui refoule, j'en ai avec un grain de sel. Mais voici ma dédicace. Qu'est-ce que c'est lourd, j'en ai mon asti de casse. Des coins, c'est du pourtour. Je pisse ces langues de bout, ça a torché mes gouttes. J'ai goût de te dire fuck tout, ne s'en surpuis pas en tout. J'te prends plus que des pincettes pour l'expérience complète. Mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Marche des œufs, ça tient un poil de couille. Mon froid sûrement pas grand cassette, ça compte, c'est des œufs de poule. Chrétien prude, vierge offensée, bouchez vos oreilles, vous jure qu'ils vont friser. Hey. Non, mais c'est toujours ben pas de petit cadeau d'avoir toujours apaisé ces mots. Allez, toucher, je vous aime, je m'en viens chaud.
Il s'en vient chaud. Il s'en vient chaud.
On peut plus faire de call, qu'il n'y a pas de bon sens. La critique est prime, le public c'est là. Faudrait toujours watcher ce qu'on va coller, mais je veux toujours mettre call un set carré. Saluez votre compagnie. Envoyez pas une petite set à soi qui reste assis. Envoyez tout le monde en place à vos set carré. Qu'allez vos bières, puis recommencez. Changez de côté, vous êtes trompés. C'est pas face qu'il faut manger, non. Mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Mange-moi le pad.
Et la cour des dieux, mon bien installe. Pour un bon buffet incontinental.
Mange-moi le pad. Dis-moi censure, puis mange-moi le pad.
Dis-moi censure, puis mange-moi le pad.
J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pour le pardon. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pour le pardon. Je resterai le fantôme. Faisait un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les highs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser trace sur le béton. Micro dans les mains, j'en guérisine sur le carton. Tison brûlant, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tout l'aide pour les parents. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tout l'aide pour les parents. Je resterai le fantôme. Nomade maintenant, mode de vie normal. Me cède parfois les couleurs du voyage. La tournée altère le sens de la morale. Décève parfois sa part en ton mirage. À quand la dernière fois, dernier rattrapage. Les représailles me font peur, mais j'ai quel âge. Assume que t'es parti, après on n'en parle plus. Oh, reste qu'à laisser aller. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard.
un proche vivez avec une perte de vision, peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés.
Et tu fou, je suis bien trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois puffs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vous écoutez toujours Avant de sortir avec Guillaume Bédard sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes. Écoutez, on a parlé beaucoup de politique en première moitié d'émission. On va essayer de se calmer un petit peu.
On va essayer fort.
Je garantis rien. C'est toujours Guillaume Bédard au micro en compagnie de Thomas Desrosiers. Et on va plonger directement dans notre deuxième gros sujet d'actualité, le coronavirus, la pandémie de COVID-19. C'est vraiment de retour. On commence à voir, si on regarde les chiffres les chiffres quotidiens, on a une recrudescence, une remontée du nombre de cas par jour. Dans les dernières semaines, on a eu vraiment une baisse très importante. On avait en bas de 100 cas plusieurs fois. On a eu une journée à... On a eu une ou deux journées à presque aucun cas. Mais là, aujourd'hui, on a 235 nouvelles infections. On s'entend que ce n'est pas encore beaucoup. Ce n'est pas encore des 1500, 1600, 1700 nouveaux cas comme on avait eu au pic de la troisième vague. Et même au pic de la deuxième vague, on a eu une journée particulièrement à 2800 nouveaux cas. Donc à 230, on est quand même correct, mais on veut agir de manière préventive. On ne veut pas avoir de quatrième vague au Québec parce qu'on voit qu'elle commence déjà à faire ses forts en Ontario. Ça commence déjà à remonter en Ontario. Ils commencent déjà à avoir peur. Ils sont déjà à 400 cas par jour en Ontario. Donc, c'est très important de faire attention là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement comme mesure préventive? Eh bien, Thomas, tu nous as déniché pour nous autres ici à l'université. C'est très intéressant. Il y a le gouvernement du Québec qui a publié une liste des établissements post-secondaires qui vont avoir besoin du masque en tout temps et les autres n'auraient pas besoin du masque en tout temps?
Non, c'est tout à fait... Ça a été annoncé par la ministre McCann, ministre de l'Enseignement supérieur. Ça va être une rentrée... normal, entre guillemets, pour les cégeps et les universités. Dans ce cas-là, il disait que les établissements qui vont avoir un taux suffisant de vaccination adéquate vont pouvoir dire à leurs étudiants que, par exemple, on ne porte pas le masque lorsqu'on est assis seulement pour se déplacer. Puis on essaie de faire attention à la distance. Mais tout de même, le masque ne sera pas obligatoire en tout temps. Par contre, il y a une liste que le Devoir publiait aujourd'hui de cégep et d'institutions pas secondaires, qui vont devoir avoir le masque en tout temps. C'est-à-dire, même assis en cours, on va devoir porter le masque. Aucune université au Québec est concernée. C'est seulement des cégeps. Quand on regarde un peu la liste, c'est beaucoup dans la région de Montréal. On a la Pocatière et... Saint-Félicien.
L'Apocatière, Sept-Îles et Saint-Félicien qui n'ont pas des taux de vaccination suffisants aux deux doses parmi leur population étudiante pour permettre une rentrée ordinaire. Sinon, il y a plusieurs cégeps techniques de la région de Montréal. On pense à l'Institut Técart, par exemple, qui est un institut de design graphique. Beaucoup. On avait également le cégep Marie-Victorin dans le nord de l'île. Mais moi, ce qui m'intrigue beaucoup par rapport à ça, c'est, écoute, j'ai été vacciné deux fois, je pense que toi aussi, oui, si je ne me trompe pas, et on ne m'a jamais posé la question sur où est-ce que j'étudiais. Donc, d'où est-ce que le gouvernement tient ces chiffres?
Moi, c'est la première réaction aussi que j'ai eue en lisant l'article, c'est en me disant de me rappeler à quel moment on m'a demandé à quelle université j'allais. Par contre, si on y réfléchit bien, le système l'a montré plus d'une fois depuis les dernières semaines. Ils sont assez forts sur la logistique dans les dernières semaines et ils ont pu aller chercher les données en les croisant avec le ministère, ce qui, habituellement, hors d'un état de crise, on le voit rarement croiser les données de chacun des ministères. C'est un peu plus dur, mais là, on a arrêté d'agir en vase clos à ce qu'on nous laisse comprendre avec ces informations-là et on a pu avoir ces données-là.
Effectivement. Et donc, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle pour la gestion de l'État québécois.
On croise les doigts.
On croise les doigts qu'il va y avoir plus de monde qui vont se parler au sein de l'administration publique. Donc, pour l'Université Laval, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement?
Très concrètement, ça veut dire repas, classe, lieu d'air commun. Dès qu'on peut être assis à un mètre de distance, on va pouvoir enlever le masque. On va demander de mettre le masque quand on va se promener. Et même que la ministre, et ça c'est la chose qui m'a le plus étonné dans l'article, la ministre a dit que grâce au passeport sanitaire, les activités parascolaires vont pouvoir reprendre. Donc à ce moment-là, c'est grâce à une vaccination adéquate de la personne qu'il va pouvoir participer aux activités de son choix hors des cours.
Effectivement, parce que c'est aussi une annonce qui a été faite cette semaine et c'est une annonce d'une importance très grande. Le passeport sanitaire va rentrer en fonction au Québec. L'annonce a été faite officiellement. Ça avait été une menace qui avait plané il y a de cela quelques semaines en disant si les cas venaient à remonter, si la situation venait à se dégrader au Québec, on va devoir mettre en place un passeport sanitaire. Et là, cette semaine, le premier ministre a dit il va y en avoir un. Les mesures concrètes de comment il va fonctionner vont être annoncées un petit peu plus tard par le ministre Christian Dubé. Et je ne sais pas, est-ce que ça a été annoncé?
Non, pas encore. Je crois que ça va être en début de semaine, soit lundi ou mardi, qu'on va avoir plus ample détail là-dessus. C'est quand même très intéressant à voir parce que le Québec n'est pas le premier État à aller dans ce sens. Il suit une vague qu'on voit ailleurs dans le monde. Par contre, ça fâche certains. On en a parlé tout à l'heure ensemble avant l'émission, mais il y a le Festival Gaulois. Moi, on monte ça aujourd'hui sur Twitter. Je me dis, mon Dieu, c'est un festival qui se crée. Non, c'est pas un festival qui se crée en plein milieu d'une pandémie, là. C'est une manifestation anti-mesures sanitaires en Beauce où les gens viennent fêter sans respecter aucune mesure barrière. Disons que c'est pas tout à fait chic la manière qu'on agit. Une journaliste de Radio-Canada, pendant son enregistrement avec son caméraman, ils ont vu un homme s'approcher d'eux et il est venu déposer une moufette morte à côté de la journaliste et de son caméraman pour les intimider. Alors, on le voit que ça fâche certaines personnes d'une certaine vision que le passeport sanitaire rentre en jeu au Québec en ce moment.
Effectivement. Pourtant, on va revenir rapidement avec ce qui avait été avec notre première moitié d'émission, parce que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de l'annonce de François Legault, qui disait qu'il va y avoir un passeport sanitaire, il s'est dit complètement en faveur de cette mesure. Il a dit c'est dans l'intérêt des Québécois, c'est dans l'intérêt des Canadiens de vouloir protéger le plus de gens possible. possible, mais un passeport sanitaire, une mesure forte comme ça, ça fait vraiment réagir. On a le Festival Gaulois, mais en France, ça ne passe pas du tout. Il y a un pass sanitaire qui est en vigueur maintenant. En fait, il y a un passeport européen, un pass sanitaire pan-européen pour pouvoir voyager à travers l'Europe, mais il y a également un pass sanitaire en France et ça ne passe pas du tout. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient en train de manifester hier.
Ah oui, tout à fait. On parle de plus de 240 000 personnes dans l'article du Soleil aujourd'hui qui sont venues manifester. Plusieurs manifestations dans plusieurs villes et autant on a vu des manifestations à Paris qui partaient de différents endroits parce que certaines ne voulaient pas se lier à l'extrême droite, mais étaient quand même contre le pass sanitaire, comme on dit en France. Il y a vraiment beaucoup de grogne. Les gilets jaunes sont revenus dans la masse. Ça brasse beaucoup. Plusieurs commerçants parlent même qu'ils n'iront pas avec cette ségrégation-là. C'est-à-dire, là, on fait des références assez fortes et c'est très mal pris en France. Et depuis deux semaines, on a des manifestations par rapport au pass sanitaire. Et j'ai même vu qu'en Italie aussi, l'idée est approchée par le gouvernement. Et il y a déjà eu des manifestations hier et aujourd'hui en Italie par rapport à ça. C'est-à-dire, on n'est pas les seuls au Québec ou que ça a de la misère à passer.
Effectivement. Et ça ne semble pas être terminé. Ça ne semble vraiment pas être terminé. Puisque, écoute, on a un article dans Radio, sur le site de Radio-Canada, un article de Mélanie Meloche-Hulobowski qui nous apprend qu'une troisième dose contre la COVID-19 pourrait être potentiellement nécessaire. En effet, et c'est très normal. Et c'est très normal parce que notre quantité d'anticorps baisse avec le temps. Très logique. Si on gardait la même quantité d'anticorps un an après avoir reçu un vaccin que ce qu'on a deux semaines après avoir reçu un vaccin, chaque fois qu'on tomberait malade, on aurait le sang plein d'anticorps. Il n'y aurait plus assez de place pour que même les globules rouges puissent passer. Donc, on aurait vraiment des gros problèmes dans notre circulation sanguine. Mais ce que ça veut dire, c'est que la protection fournie par le vaccin contre la COVID-19, même après deux doses, eh bien, elle diminue avec le temps. On est moins protégé six mois après la vaccination qu'un mois après la vaccination. Un mois après la vaccination, c'est à peu près le pic de protection. Parce que dans les deux premières semaines, le vaccin n'a pas encore eu le temps de faire complètement effet. Et après un certain temps, il commence à diminuer d'efficacité. Sauf que comme la pandémie n'est pas encore complètement terminée, il se peut qu'on recommande une troisième dose de vaccin pour certaines populations particulièrement à risque. On pense particulièrement aux personnes âgées, aux personnes ayant des antécédents, des risques préalables, comme on les appelle. En effet, Israël, l'Allemagne ont déjà commencé à administrer une troisième dose. Au Canada, particulièrement au Québec, on sait que ça fait moins d'un an que les gens ont commencé à être vaccinés et ce ne sont vraiment pas toutes les personnes qui ont été vaccinées en même temps. Les personnes âgées de 80 ans et plus ont commencé à être vaccinées en janvier, en février. Elles commencent à s'approcher du 6 mois. Mm-hmm. Et même après 6 mois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune protection, qu'il n'y a plus rien qui s'applique. C'est simplement qu'au lieu d'être efficace à 95%, ces vaccins-là sont efficaces à 83-84%. Ce qui est, on s'entend, déjà pas mal mieux. Pour être efficace, un vaccin contre la grippe, le vaccin annuel contre la grippe, pour qu'on le considère efficace, on demande qu'il ait une efficacité de 50 %. Donc, on s'entend que 83, c'est vraiment pas mal. Par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Thomas, mais moi, j'ai l'impression que de rajouter une dose de vaccin supplémentaire, non seulement ça va être un défi logistique considérable, mais surtout, ça peut susciter de la grogne chez ceux qui sont déjà un peu réfractaires à l'idée de se faire vacciner une seule fois.
Oui, tout à fait, parce que les gens les plus difficiles à convaincre qu'on a réussi à convaincre depuis quelques semaines à se faire vacciner, il y a un contrat qui était dans leur tête de « OK, je le fais deux fois et après on n'en reparle plus ». Et là, une troisième fois, est-ce qu'on va réussir à amener un autre aussi au taux de vaccination qu'on a au Canada à nouveau pour une troisième dose? Moi, j'ai l'impression que ça va être une autre paire de manches. Et là, la santé publique et le ministère de la Santé va réfléchir longuement à savoir comment convaincre les gens. Ils vont devoir offrir beaucoup de gratuits ou de tirages de bourses pour convaincre les gens, parce que la troisième dose, ça va être beaucoup plus dur que les deux premières. À ramener autant de personnes, ça va être très difficile.
Effectivement. Écoute, on va aller faire un petit tour à l'international. On va prendre le temps, on va aller faire un petit tour à l'international. C'est sûr qu'on parlait de vaccins qui se passaient, mais on ne s'intéresse pas uniquement à la situation sanitaire dans les autres pays. On s'intéresse également à leur situation géopolitique parce que ça brasse, ça brasse. Bon, c'est sûr qu'on a nos collègues... nos collègues de chez le voisin qui vont pouvoir vous en parler en plus grand détail. Mais rapidement, il y a une grande crise qui se passe présentement en Haïti. Nos frères, nos cousins en Haïti ont perdu leur président cette semaine et il n'y a toujours pas d'enquête qui a été déclenchée.
Oui, tout à fait. Pour ceux qui s'en rappellent pas, le président haïtien a été tué chez lui par un commando armé. Et là, ça fait un mois exactement aujourd'hui et on n'est pas capable de trouver au ministère de la Justice un juge d'instruction. C'est un peu loin de notre système à nous, mais il faut, pour commencer une enquête dans ce type de système comme le système français et haïtien, avoir un juge d'instruction qui dit « Parfait, je prends l'enquête et je la déclenche. » Mais plusieurs refusent pour leur intégrité physique et celle de leur famille. Ils ont peur. Le ministère de la Justice a déjà fait des demandes au gouvernement pour avoir des gardiens, des policiers qui vont protéger ce futur juge qui était supposé être annoncé cette semaine et qui ne l'a pas été dû à cela. Ils ont très peur de vivre un peu ce que les juges italiens des années 90 ont vécu avec la mafia. Ça veut dire d'être mis en danger. On se rappelle le juge Falcone qui est même mort dans un attentat, une explosion. Ça veut dire que ça tente à personne en Haïti en ce moment. Donc, c'est ça le nerf de la guerre pour cette enquête en Haïti sur la mort de Moïse Ravanel, l'ancien président ici.
Effectivement. Donc, on peut s'attendre à plus d'instabilité politique en Haïti. On se souvient que ce n'est pas le premier président qui a été assassiné. Ce n'est pas la première crise politique qu'Haïti traverse. Donc, quand seront tenues les prochaines élections? Dans quel contexte seront tenues les prochaines élections en Haïti? C'est pas juste des bonnes nouvelles qui augurent.
Non, c'est pas juste des bonnes nouvelles. C'est que quand on parle de commando armé, c'est se demander qui va se présenter aux urnes, c'est comment les bureaux de vote et les gens qui vont être en charge des bureaux de vote vont vivre ces élections-là, parce que la menace va toujours planer. Et en tout cas, c'est pas une ambiance que l'on souhaite à aucune démocratie. C'est très, très demandant en ce moment pour la moitié de l'île espagnole qu'Haïti représente.
Effectivement, effectivement. Dans la liste des mauvaises nouvelles, on a également l'Afghanistan. Les troupes internationales se sont retirées récemment et il y a déjà des regains de territoire de la part des talibans.
Oui, depuis 24 heures seulement, les talibans ont pris deux capitales régionales. Et on dit dans les articles, comme l'article du Devoir qui en parlait, que en ce moment, les troupes formées par les forces militaires internationales quittent tout simplement, ne veulent pas mettre leur vie en danger. Ça veut dire là, on se rapproche beaucoup chez les talibans des deux villes les plus importantes au pays, dont Kandahar. Est-ce que l'Afghanistan va devenir un pays dirigé en majorité par les talibans et Kaboul seulement par le gouvernement mis en place par les Américains? Ça, c'est certainement pas ce que la communauté internationale cherche et souhaite. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais les talibans sont revenus en force dans les zones rurales afghanes depuis quelques semaines.
Effectivement. Donc, est-ce qu'on va retrouver un Afghanistan divisé? Est-ce qu'on va retrouver un Afghanistan encore marqué par la guerre pour encore de nombreuses années? C'est très inquiétant. On continue à garder un œil sur ça. Vous écoutez toujours, avant de sortir, votre magazine d'actualité aux ondes de Chiz 94.3. On va aller prendre une dernière petite pause musicale. On va aller écouter la chanson « Tôt Québec site » de Jérôme 50. Et on vous revient tout de suite après avec des actualités locales et municipales.
C'est l'histoire du petit Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Jean avec sa nouvelle Civic montée puis sa blonde de 15 ans.
Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, à l'endroit par en envers. Pour Arsoud à Jonquière. C'est l'histoire de Marie-Lou Thibodeau, grande adepte du compostage, qui mange local, vegan, pis bio, à part qu'un capot en voyage. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frette, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, à l'endroit par en envers. Pis ça va te partir vert. Took a back seat, took a back seat, took a back seat, took a back seat. C'est l'histoire de Joanie Gendron, à l'aventure d'occupation double, qui dit lors de son audition, je tenais paquet de troubles. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frette, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, à l'endroit par en envers. Ça se pogne le beau frère. Took it back, sit. Took it back, sit. Took it back, sit. Took it back, sit. C'est l'histoire de gros bras grandiaux, tout droit sorti de Nicolette, qui juge à la couleur de la peau pour distribuer ses tickets. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frette, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, à l'endroit par en envers. Avec les cerises sur le gros nerf. Took it back, sit. En avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frette, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, à l'endroit par en envers. Les deux pieds dans la boîte, s'en va se coter chez sa mère. Quand le jump, quand les dettes, t'envoies une autre de bière. Mais tu cuis la cassette, lourdes comme un revolver. Bloqué sur internet, jamais défriché la terre. Fait qu'à cause qu'on est fiers. Took a back seat.
Vous écoutez toujours Avant de sortir avec Guillaume Bédard sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes. Écoutez, on va plonger directement dans le vif du sujet. On s'en va en politique municipale et on va aller de l'autre bord du fleuve. On s'en va à Lévis puisqu'il y a eu une candidature qui s'oppose au maire Gilles Lehouillier. Le maire Gilles Lehouillier qui sollicite un troisième mandat à la mairie de Lévis qui a également... le monopole total, il a le contrôle total sur le conseil de ville de Lévis. Il n'y a pas un seul conseiller municipal à Lévis qui ne fait pas partie du parti Lévis Force 10, qui est le parti du maire Lehouillier. Mais on sait également que c'est pas un maire, c'est un maire qui est très populaire, mais ce n'est pas un maire qui fait l'unanimité. Il y a donc une opposition qui a commencé à s'organiser autour du parti Repensons Lévis et ce parti a annoncé aujourd'hui sa candidature pour la mairie. Qui est-ce qui va s'opposer au maire Gilles Lehouillier lors des prochaines élections municipales qui auront lieu à l'automne qui s'en vient? Ça, c'est même pas une rumeur. C'est annoncé, c'est fait, c'est dans les cartes, ça s'en vient. Donc, son nom, c'est Eladji Mamadou Diarra. C'est Sébastien Tanguy de Radio-Canada, ici Québec, qui fait un excellent portrait sur le site de Radio-Canada. Et vraiment, on voit... Donc, c'est un candidat issu de la diversité, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut s'opposer au maire Gilles Lehouillier en ayant une approche, on peut le dire, un peu plus à gauche, donc plus porté sur les questions environnementales, plus porté sur les services directs aux citoyens. Et ça survient alors que c'était l'ancienne ministre libérale Dominique Vien qui était pressentie pour être candidate à la mairie de Lévis. Pour Repensons Lévis, qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas?
Et moi, je pense qu'ils peuvent être contents Repensons Lévis parce que les gens avaient beaucoup d'attentes quand la rumeur était que Dominique Vien allait se présenter, tout ça. Finalement, elle est sortie pour dire que non, ce serait pas son choix. Et là, tu te dis, est-ce que le maire Leouly va encore passer le go et réclamer 200$? Et non, finalement, ils ont trouvé quelqu'un qui a quand même un pedigree très intéressant, vit à Lévis, travaille à Lévis. C'est quelqu'un qui connaît la communauté, très intéressant CV. Et en plus de ça, il a été intéressé par le parti. En premier lieu, il voulait se présenter dans un district municipal de Lévis. Et finalement, on l'a approché pour lui dire, « Monsieur Diarra, pourquoi pas prendre une coche de plus et se présenter à la mairie? » À ce à quoi il a dit oui, je pense que ça peut être très intéressant, parce que comme tu l'as dit, le maire Leouly ne fait pas l'unanimité.
Il ne fait pas l'unanimité et cependant, il y a plusieurs de ses conseillers qui, lors des dernières élections, il y a 4 ans, ont été élus par acclamation. Il n'y avait aucune opposition.
Mais ça, c'est un problème qu'on a dans à peu près 50%, 60% des municipalités au Québec. Le nombre d'élus municipaux qui sont élus par acclamation. Et c'est triste quand même que la ville de Lévis, qui est une municipalité assez importante démographiquement...
Démographiquement et économiquement, la ville de Lévis, c'est une des villes qui connaît les croissances économiques les plus soutenues année après année depuis plus de 20 ans maintenant.
Mais politiquement, c'était morne. C'était morne.
Politiquement, c'est mort, c'est morne. Ça ressent... C'était un seul parti. Il n'y avait qu'une seule vision. Alors que là, on va avoir un peu plus de débats et c'est très important, alors qu'on sait que le sujet de l'heure, ça va être le troisième lien, le tunnel Québec-Lévis. Donc, on sait que le maire de Lévis, Gilles Leouillé, est présentement un des plus grands défenseurs de ce projet-là.
C'est la figure de proue même du projet. Il va baser toute sa campagne là-dessus, j'ai l'impression. Repensons Lévis. Elle tend un peu plus à réaxer sur la ville en soi et moins se poser de questions plus grandioses. Et on reproche un petit peu au maire Leouly de s'inspirer du maire Labeaume du début et de trop parier par le grandiose et pas être assez à Lévis terre à terre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme débat.
Effectivement, on a également une citation de M. Diarra qui disait... Un grand sage disait, nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. C'est mon objectif, donner un monde plus intéressant à la génération qui nous suivra. Donc, on peut s'attendre à un débat assez chaudé par rapport au troisième lien. On va faire également un petit arrêt par la ville de Repentigny, puisque, en effet, on a eu une mort cette semaine, un homme qui a été abattu. Tué par la police de Repentigny, un homme noir. Donc, ça ressemble étrangement beaucoup à un cas de profilage racial, surtout qu'il a été révélé depuis que l'homme en question avait déposé son arme. Il tenait un couteau. Il l'a déposé avant d'être abattu. C'est complètement incroyable. C'est ahurissant comme situation. Et il y a eu une grande veillée cette semaine face à l'hôtel de ville. Et donc, cette mort, cet incident s'est passé dimanche. Et ce n'est que hier, vendredi, que la mairesse de Repentigny a réagi en disant, avec un communiqué. Donc, ça passe pas très bien. Ça passe pas très bien au dans la communauté multiethnique de Repentigny. Il y a Repentigny qui est une ville qui se diversifie grandement. Donc, elle aussi, son siège est en jeu. On sait que Repentigny, ça fait plusieurs fois que le profilage racial revient sur le tapis. Le service de police a des problèmes par rapport à ça. Il a fallu que des organismes communautaires appelle la mairesse pour lui demander d'appeler les parents de la victime. Ça se passe pas bien. Ça se passe vraiment pas bien. Et pour terminer, on va simplement faire une demande spéciale aux candidats et candidates à la mairie de Québec. Faites quelque chose.
On aimerait vraiment ça.
Pour l'instant, en politique municipale à Québec, depuis que le maire Labeaume a annoncé qu'il ne se représenterait pas, écoute, il y a 5 grands candidats en jeu. On a l'ancienne équipe La Baume, on a Québec 21, on a également Québec Fort et Fier, on a
Transition Québec, Démocratie Québec.
Démocratie Québec et Transition Québec, mais il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de grandes annonces, il n'y a pas de grands débats. On s'attend à mieux pour la deuxième ville en importance au Québec.
Tout à fait, on se dit là, prenez le crachoir parce que sinon l'élection fédérale arrive à grands pas et on va trouver ça long au municipal de ne pas pouvoir se faire entendre parce que Justin Trudeau et Jack Metzing vont être tout le temps à la télévision.
Effectivement. Sur ce, merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous pour cette heure de radio. Et merci beaucoup à vous, cher public, d'avoir passé la dernière heure de radio en notre compagnie. C'était Guillaume Bédard et Thomas Desrosiers au micro pour votre magazine d'actualité hebdomadaire. Avant de sortir, vous écoutez toujours Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.